טוב, שלום וברכה. Mon nom est Yoel Benarosh. Avec moi, Bezrat Hashem, vous aurez cours une fois par semaine, le mardi, de midi à 1h10, à peu près 1h15, on verra. Le sujet de mes cours, c'est en fait une remise en place de toutes les notions du judaïsme pour ne pas que ces notions soient dévoyées, c'est-à-dire en dehors de leur voie. Et cette remise en place est nécessaire, vous allez le voir, Bezrat Hashem, pour comprendre beaucoup de notions que nous avons l'impression de connaître et qu'il faut en fait remettre en place lorsqu'on veut étudier la Torah d'une manière sérieuse. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une belle année et une belle Torah qui va vous remplir et qui va vous permettre de remplir à votre tour le monde des valeurs divines. C'est le but pour lequel le peuple d'Israël fut créé. Nous avons été créés pour une seule chose. Une seule. Le prophète le dit clairement, Isaïe 43, « Am zu yatsarti li tehilati yesaperu. » Je n'ai façonné ce peuple que pour révéler mon nom et raconter mon nom au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par le biais du peuple d'Israël, les valeurs de Dieu passent au monde. Si Israël ne joue pas son rôle, c'est comme si Chas v'Shalom en laissait Dieu dans le ciel. C'est comme si Dieu n'avait pas la possibilité de se dévoiler sur terre. Lui-même a choisi cet ordre-là, que les choses se dévoilent par le biais du peuple d'Israël. Et donc, il est important de comprendre notre rôle en tant que peuple. Et pas seulement comme des juifs, individuellement parlant. Pour le premier cours de l'année, Bezrat Hashem, j'ai écrit un cours que je vais maintenant, Bezrat Hashem, partager avec vous. J'aimerais que pour les prochains cours, Bezrat Hashem, vous veniez à l'heure, s'il vous plaît, parce qu'on a tellement peu de temps dans la semaine que c'est dommage. Et j'ai pour habitude, et les gens, les anciens élèves me connaissent, de venir à l'heure. Je suis très précis pour commencer, Bezrat Hashem, sur un bon pied. J'ai donc écrit ce cours concernant le mois de Elul d'une manière générale et la notion essentielle et centrale de ce mois-ci, c'est-à-dire la Teshuvah. Donc, je l'ai appelé Elul Chodesh HaTshuvah. Ne vous inquiétez pas, c'est en hébreu. On va lire. Vous allez faire connaissance avec les lettres hébraïques. Nous avons une règle, Otiot Markimot, les lettres du Saint béni soit-il, c'est-à-dire les lettres hébraïques, rendent ceux qui les regardent sages. Plus vous allez voir les lettres hébraïques, plus la sagesse va vous pénétrer. Ce ne sont pas seulement des formes pour faire passer un message. Il y a en ces lettres-là, à l'intérieur de ces lettres-là, une qualité qui révèle et qui véhicule la sagesse divine. C'est très important de le savoir. Donc, on va lire, on va traduire et on va essayer de comprendre les choses. Bien entendu, le cours est interactif. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous levez la main. On peut développer un sujet. Si les choses ne sont pas comprises, on recommence. Bezrat Hashem, dans une bonne ambiance et avec beaucoup de bracha, Kakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, mette en nous une shrina, la shrina, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, révéler son nom d'une manière adéquate. Alors donc, Elul, Chodesh HaTshuva. Donc Elul, le mois de la Teshuva. Vous voyez que le mot Elul est un petit peu bizarre. Ce n'est pas de l'hébreu, comme la plupart d'ailleurs des noms des mois de l'année, qui sont en réalité venus avec les enfants d'Israël de Babylone. Ça veut dire que le mois de Elul ne veut rien dire apparemment en hébreu. C'est vrai, mais en araméen, il veut dire quelque chose. Il veut dire scruter. Il veut dire rechercher. Il veut dire approfondir. Par exemple, lorsqu'il s'agit des explorateurs, vous connaissez dans la Torah la paracha des Meraglim, Shlach Lecha, où Dieu dit à Moshe d'envoyer des hommes pour aller voir la terre, Moshe leur dit Veyaturu et Haaretz, qu'ils aillent voir la terre, et dans la traduction de Onkelos, il est écrit Veya Alelu at Yara. C'est-à-dire, ils emploient là-bas le terme de Elul comme aller fouiller, aller rechercher, aller approfondir. Là-bas, il s'agit de la terre. Si on traduit cela dans notre moi, c'est-à-dire que c'est le moi de la recherche intérieure. Donc Elul ne reste plus maintenant sans traduction. Sa traduction est simple. C'est le moi où nous sommes capables d'aller au fond de soi pour rechercher notre véritable identité, ce pourquoi nous avons été créés. Chacun de nous a envie de savoir ce qu'il est venu faire dans ce monde. Vous êtes en train de vous chercher, vous êtes à un âge où vous vous cherchez dans la vie, certains plus, certains moins. Mais ce mois-ci et cette terminologie, ce terme-là de Elul, c'est justement la recherche de. Je vais au fond de moi pour chercher ce pourquoi je suis là. Et donc je l'ai appelé Chodesh HaTeshuvah, le mois du retour. Et pas seulement du repentir. Parce qu'en français, vous avez l'habitude d'utiliser la Teshuvah seulement pour le repentir. Vous allez voir que le mot Teshuvah en hébreu a plusieurs sens. Il peut être aussi une réponse à une question. Il y a une She'ela et une Teshuvah, une question et une réponse. Et il y a aussi la Shuv, à l'infinitif, revenir. Donc Teshuvah veut dire retour. Donc, qui dit retour vers quoi ? Je dois savoir vers quoi je vais, vers quoi je repars. Car qui dit retour dit que je suis venu de là-bas. Je ne fais que retourner. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de notions à voir. On va commencer et vous allez voir que Be'ezrat Hashem, vous allez avoir une notion de la Teshuvah qui change, je pense, de ce que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. HaTeshuvah itnoa kosmit. La Teshuvah est un mouvement cosmique. She'inyana, dont le but est legalot et habore babria, de révéler le Créateur dans sa création. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que la Teshuvah est un mouvement qui existe. Ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est une notion qui est là. Elle existe d'ailleurs même avant la création du monde. Il est écrit dans le traité de Psachim, la Gemara, à la page 54, que la Teshuvah a précédé la création du monde. Elle a précédé le monde. Ça veut dire que la Teshuvah n'a pas besoin d'un fauteur. Vous, vous avez l'impression que pour faire Teshuvah, il faut d'abord fauter. Mais là, on va apprendre que non. Et donc, la Teshuvah existe avec nous, sans nous, avec faute, sans faute, ça n'a aucun rapport. Sinon, les sages n'auraient pas dit que la Teshuvah existait avant même la création du monde. Parce qu'avant la création du monde, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de fauteur, il n'y a rien du tout. Alors, de quoi tu parles? Donc, il faut assimiler toutes ces notions. C'est très important. Pour vous expliquer cela, je vais vous donner un exemple. À quoi ressemble ce mouvement cosmique dont je viens de parler? Qui, en réalité, c'est le retour de Dieu, de l'infini, dans le monde qu'il a lui-même créé. Vous allez me poser la question, et si vous ne la posez pas, je la pose à votre place. Est-ce que Dieu a quitté le monde pour y revenir? Réponse, en quelque sorte, oui. Et je vais vous donner un exemple que Rabbi Avraham Ibn Ezra nous donne. En effet, Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit que la création du monde utilise le terme en hébreu de bara. Bara en hébreu, c'est être en dehors de quelque chose. En hébreu, bar veut dire extérieur. Par exemple, un chat qui se trouve dans la maison, on dit chatul bait, un chat de maison. Mais un chat sauvage, on appelle chatul bar. Donc le mot bar, deux lettres, bet, resh, veut dire extérieur. Donc le terme utilisé pour la création, c'est bara. Donc si je découpe le mot bara, j'ai toujours les deux premières lettres bar, et il me reste le aleph. Donc la création, c'est tout simplement une sortie du aleph. Or le aleph, c'est l'unité divine. Donc la création, c'est sortir de l'unité divine pour nous trouver dans un monde de détails. Voilà ce que représente la création. C'est clair? Ça veut dire je sors de l'unicité divine pour arriver dans un monde de détails, de pluriel.
Ça ressemble au Big Bang.
Slicha?
Ça ressemble au Big Bang.
C'est le Big Bang qui ressemble à ça.
Ouais, voilà,
d'accord. Ça veut dire que nous sommes dans la Torah, dans l'essence des choses. Et si vous allez trouver dans la science des ressemblances, c'est toujours dans le sens où elles reconnaissent la véracité de notre Torah. Car notre Torah n'est pas une invention humaine, c'est en réalité la parole de l'infini. Il faut bien comprendre, c'est énorme ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, vous étudiez en fait la parole de l'infini. Donc l'infini s'intéresse à nous. C'est incroyable. Je le dis et j'ai peur même. Comment est-ce que l'infini béni soit-il, qui a créé toutes les galaxies, tous les mondes, s'intéresse à moi, petit bonhomme, et à ce que je vais faire? Et comment je vais attacher mes lacets le matin? Incroyable. Donc toute la Torah que nous étudions est une Torah qui est objective, car elle vient de la source infinie, de la vérité absolue. Moralité, si nous ne croyons pas dans cette Torah, quelle est la vérité absolue? Ça ne sert à rien, en fait, de l'étudier. Et si vous ne pensez pas que c'est l'infini, béni soit-il, qui nous l'a donné, et que vous pensez que ce sont des hommes qui l'ont écrite, ça ne sert à rien de l'étudier. Car un homme, aussi grand soit-il, c'est toujours un homme. Si j'avais l'impression que Moshe a écrit la Torah, excusez-moi, mais je ne veux plus rester dans la Torah. Je reste dans la Torah parce que je suis convaincu que c'est ce qu'on a reçu de l'infini. Et Moshe n'était que l'intermédiaire. Attention, ce n'est pas une invention humaine. Sinon, on tombe dans la religion. Nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. C'est la parole de Dieu, de l'infini béni soit-il, à l'humanité à travers un peuple qu'il a choisi, Israël. D'accord ? La religion, c'est une invention humaine, de gestes. C'est-à-dire, je mets les tefilines, donc je suis juif. Non, chez nous, c'est pas ça. Tu es juif bien avant de mettre les tefilines. Et si tu n'étais pas faisant partie de ce peuple d'Israël, tu n'aurais même pas besoin de mettre les tefilines, on te demande rien. C'est pas les tefilines qui te rendent juif. D'ailleurs, aucune mitzvah ne nous rend juifs. C'est parce que nous sommes juifs que nous faisons les mitzvot. On est bien d'accord? Donc ce mouvement ressemble, dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, à une maman qui accouche un bébé. Que se passe-t-il au moment de l'accouchement? Le bébé sort. Rappelez-vous le terme bar. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit un fils en hébreu? Bar. La même chose. Quand tu dis à quelqu'un, tu es bar mitzvah, ça veut dire quoi? Tu es fils de la mitzvah. Donc le mot bar et ben en hébreu, c'est la même chose. Tu peux dire Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon fils de Yochai, ou bien Rabbi Shimon bar Yochai, c'est la même chose. Rabbi Shimon fils, donc qui est sorti de son papa qui s'appelait Yochai. Donc lorsque la maman engendre un enfant qui va s'appeler donc bar, elle va le sortir de son ventre. Je reviens 5 secondes dans le ventre de la maman. Dans le ventre de la maman, il n'est pas encore son fils. Il n'est que fœtus. D'accord? Donc il est de passage. Comment est-ce qu'on appelle fœtus en hébreu? Rou, bar. C'est les mêmes lettres que le mot over. C'est celui qui passe. Il ne fait que passer. Il est là pour un laps de temps, généralement de 9 mois, et il se développe à l'intérieur, mais il passe. Il ne fait que passer. Il ne reste pas dans le ventre. De quoi est-il nourri, ce fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère? De la maman elle-même. Il y a un cordon ombilical qui le relie à la maman et il se nourrit de la nourriture que la mère mange. Et de la mère, d'une manière générale. Mais au moment où il sort, que se passe-t-il? On découpe ce cordon. Si je laisse le bébé maintenant dehors, maintenant il est découpé de sa maman, que lui arrivera-t-il? Il va mourir. On est d'accord? Jusqu'à maintenant, il était nourri de la maman. Non. Pour ne pas qu'il meure, la maman est obligée de revenir vers son fils. On est d'accord? Pour le nourrir. Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez-moi. Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit que la création du monde ressemble à cela. Il nous donne un exemple humain que nous connaissons, la naissance, et il nous dit que l'infini, béni soit-il, c'est comme une grande maman qui avait en elle le fœtus, c'est-à-dire le monde, et ce monde était nourri de l'intérieur. Et lorsque le monde fut créé, c'est comme si Dieu avait accouché comme la maman qui a fait sortir le monde de son ventre. Jusque-là, ça va? Au moment où le monde est à l'extérieur, entre guillemets, du ventre, lui aussi, si la grande maman, cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu, ne revient pas vers le bébé, ce bébé va mourir. Donc, que fait Dieu, en quelque sorte? Il revient vers le monde. Comment on dit revenir en hébreu? La chouve. D'où le terme de Teshuva. Donc, qui revient en premier vers le monde qu'il a lui-même créé? L'Éternel. Donc, le premier mouvement de la Teshuva, ce n'est pas un mouvement de toi ou de elle, de l'homme, c'est un mouvement qui, en réalité, du haut vers le bas, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire de l'éternité vers le monde qui a été créé. Comme la maman qui revient nourrir son bébé. Quel?
Est-ce que c'est en quoi il est juste quand il fait ça, Hachem? Quelle est la justice quand il fait ça?
Toi, tu dois en fait comprendre que, et c'est la deuxième étape, comment est-ce que Dieu revient dans son monde? Eh bien, Dieu a décidé. Sont des choses qui sont dans les secrets de la Torah, dans la Kabbalah, que lorsque Dieu revient dans son monde, il utilise un canal, un biberon. Ce biberon s'appelle Israël. C'est-à-dire que le retour de Dieu vers le monde se fait par Israël. Bien entendu, c'est pas un mouvement physique, Dieu n'est pas là, il est là-bas. Je parle d'un dévoilement. Quand je dis retour, c'est un dévoilement. Donc Dieu se révèle, se dévoile dans le monde grâce à Israël. Si Israël ne fait pas son travail, c'est ce que je vous ai dit au départ, Dieu ne se révélera pas dans ce monde. C'est lui qui a choisi cette condition. C'est lui qui a fixé cette condition. Donc Dieu attend Israël. Je vous donne une preuve à l'appui. Quand Dieu donne la Torah, en réalité c'est la vie. Il la donne pour qui la Torah ? Pour le monde, pour faire vivre le monde. Mais par qui elle passe ? Par Israël. Et Dieu dit, dans la Gemara de Shabbat à la page 85b, si vous ne recevez pas maintenant ce biberon de lait qui est la nourriture du monde, donc cette Torah, le monde redevient tohu bohu, c'est-à-dire j'annule tout. Autrement dit, c'est grâce à vous que le monde vit. C'est clair ? Donc en réalité, Israël est responsable de la vie sur terre et dans tout l'univers. Notre rôle est donc un rôle énorme. Il est infini de faire revenir les valeurs de l'infini à travers nous, à travers nos actions, à travers nos pensées, à travers nos paroles, dans le monde. Donc nous servons de biberon à l'infini pour revenir nourrir le bébé qui s'appelle l'univers. Ken.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce canal ?
Alors, ce canal, en fait, et là je réponds aussi à sa question, nous permet de devenir associés. Et c'est en cela que Akadosh Baruch Hu nous dit, je ne vous ai pas créé pour rien, en vain, je veux que vous soyez avec moi, associés dans mon retour. Ça veut dire que ça nous rentre maintenant comme associés avec Dieu pour ce qu'on appelle la réparation du monde. Extraordinaire. En quelques minutes, je vous ai prouvé que nous sommes associés à la création du monde. Et nous ne sommes pas des robots. Car nous pouvons, chas v'shalom, refuser de jouer le jeu. En tant qu'individu, en tout cas. La nation, elle a accepté, puisque sur le mont Sinaï, nous avons dit « Na'ase venishma ». On va le faire. Même si on ne comprend pas tout, on est d'accord, on est associé, on signe. On comprendra au fur et à mesure. Mais on a accepté. À partir du moment où on a accepté, on est maintenant dans ce système d'association avec Dieu. À l'intérieur de ce système, il y a des individus. Toi, moi, lui. Et si Chas v'Shalom, l'un d'entre nous ne veut plus jouer le rôle, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort. Il s'en va. Il ne veut plus jouer le rôle. Il ne veut plus qu'on lui parle ni de judaïsme, ni de la terre d'Israël, ni de la Torah, ni de toutes ces choses-là. Il vit sa petite vie. Est-ce que pour autant le mouvement général s'est arrêté ? Non. Mais lui ne fait plus partie de ce mouvement général, c'est-à-dire c'est comme si son canal a été bouché. Est-ce qu'il reste Israël, faisant partie du peuple juif ? Oui. Mais Israël bouché. Comment est-ce qu'on appelle quelque chose qui est bouché en hébreu ? Satoum ou Atoum. Mais c'est la même racine que le mot tamé, impur. Donc l'impureté, c'est devenir bouché à la circulation de l'infini dans ce monde. Mais ça, on peut le faire qu'au niveau individuel. Au niveau collectif, on a déjà accepté, on est dans le programme. C'est fini. Il n'y a plus de marche arrière. Ok.
Les nations, ils ont accepté aussi votre...
Les nations,
ils ont accepté le rôle d'Israël au
final. Les nations du monde ont accepté le rôle d'Israël parce que, et là j'arrive, mais vous voyez, j'ai déjà mangé le cours, mais c'est pas grave, Israël ne peut jouer son rôle que à partir d'un lieu précis sur la planète Terre. La Terre d'Israël. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est ce que Dieu dit à Abraham. C'est le premier rendez-vous de l'histoire entre l'infini et un homme. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Abraham ? Quitte l'endroit où tu te trouves parce que tu n'es pas au bon endroit et va vers un seul lieu que je t'indiquerai. Ce lieu, c'est la terre d'Israël. Car là-bas, je ferai de toi un peuple et c'est en tant que peuple sur cette terre-là que mon nom à moi sera révélé dans le monde. Moralité, tant que Abraham était en dehors de cette terre, il ne pouvait pas faire avancer le processus. Donc il fallait qu'il déménage, qu'il vienne ici, qu'il fonde cette nation d'Israël que nous sommes, et c'est en tant que nation sur la terre que nous pouvons jouer ce rôle. À partir du moment où les nations du monde acceptent de donner au peuple d'Israël ce lieu, et donc elles ont signé en 1948 l'acceptation de l'État d'Israël, le processus de Géoula, de rédemption totale, a commencé. Il n'est pas encore définitif, parce qu'elles ont voté, mais certaines d'entre elles ont regretté d'avoir voté. Donc il n'y a pas une acceptation totale intérieure.
Mais même dans leur refus, s'ils ont refusé, et ils nous tiennent pour responsables des maux de ce monde, c'est-à-dire qu'ils ont accepté...
Intuitivement, ces nations savent que Dieu doit descendre par nous. D'ailleurs, à chaque fois qu'on cherche un Dieu pour le monde, on le trouve chez qui ? Chez nous. Nous fournissons les dieux. D'accord ? Les chrétiens se sont fournis chez nous. Toutes les statues de la Avodah Zara du monde, chez qui on les achetait ? Chez le papa de Abraham. Donc il avait un magasin de dieux. Donc nous sommes des grossistes en Dieu. À chaque fois que le monde a besoin du divin, ils viennent tous vers Israël. Intuitivement, ils savent. Mohammed a étudié où ? Chez les sages d'Israël. Tout vient d'ici. Donc cette reconnaissance est intuitive et elle va devenir de plus en plus concrète, assimilée et acceptée. Ken, c'est bon, les questions commencent à sortir. Vous me faisiez peur tout à l'heure, je pensais que vous étiez des poissons. Mais, Baruch Hashem, je vois que vous êtes des hommes. Ken.
Dans plusieurs centaines d'années, les Juifs ont quand même rayonné, ils ont quand même dévoilé le nom d'Hachem, même sans Israël.
Alors, effectivement, pendant des milliers d'années, les enfants d'Israël ont révélé le nom de Dieu sans être sur leur terre. C'est vrai, mais ce n'est pas d'une manière complète. Et c'est pour ça que le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, nous dit que tant que le peuple n'est pas sur sa terre, même la révélation qu'il fait n'est pas encore la révélation que Dieu veut. Et il les considère là-bas comme des morts, Chas v'shalom, qu'il faut sortir du cimetière pour les ramener vers la terre de la vie. Tu peux le lire, Ézéchiel 36. Ken.
Et comment on peut révéler dans la terre de la planète si on est fixé sur un seul
endroit ? Y a fait. On révèle à toute la planète à partir de cet endroit. Comme le texte le dit, tu le dis toi-même, Ki mitzion tetze Torah ou Dvar Hashem mi Yerushalayim. Ça veut dire que c'est de Jérusalem que sortira la parole de Dieu au monde. Donc tu n'as pas besoin de te balader, entre guillemets, pour diffuser quelque chose. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on sait que les valeurs que nous générons au monde peuvent être générés sans qu'on puisse bouger, sans qu'on doive bouger d'ici. On peut sortir et revenir, mais notre base est l'endroit qui scelle notre lien avec l'infini et avec le monde entier. C'est de ce lieu-là que Dieu se dévoile, et donc à partir de ce lieu-là que nous pouvons être ce que nous sommes vis-à-vis des nations. Comme, et je reviens au verset de Abraham, à partir du moment où tu seras là, donc Abraham, et tu fonderas cette nation, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. De là seront reliées et nourries et bénies toutes les familles de la terre. D'accord ? Donc il y a un point central duquel tout rayonne. Et il est obligé d'être sur cette terre. Ken ?
Je retourne un peu en arrière. En fait, vous avez dit que par rapport à la tête du bateau, en gros, quand un homme et une femme, quand ils font un enfant, ils retournent vers lui. Pour quelle raison au final ?
C'est
pour
qu'est-ce que ça veut dire il retourne vers lui ?
Bah, une fois qu'il a coupé le cordon, si on le laisse tout seul, il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Donc en gros, on retourne vers lui.
Vers le bébé.
Pour qu'au final, le but ultime soit qu'il succède.
Exactement.
Pourquoi il retourne vers nous ?
Il a fait.
Il ne veut pas qu'on leur succède.
Il a fait. Dieu veut qu'on soit en réalité sa révélation. Donc Dieu en fait a besoin entre guillemets de nous. C'est lui qui a créé ce système pour nous dire je veux que tu deviennes en fait grand. Qu'est-ce que ça veut dire que tu deviennes grand ? Tu deviennes un peuple. Pourquoi? Parce que c'est seulement en tant que peuple que tu seras en réalité mon avenir. Dieu a pris cette décision dans sa sagesse infinie que nous ne comprenons pas, que le peuple d'Israël, c'est son demain, c'est son avenir. Autrement dit, il veut que ce monde soit régi, que ce monde soit géré selon les critères de l'infini. Et qui est responsable de ces critères? Seulement ceux qui ont reçu la Torah pour savoir ce qu'on doit faire. Donc c'est le peuple d'Israël qui est responsable en fait d'être fidèle à toutes ces valeurs pour les calquer dans l'univers dans lequel nous sommes.
Il n'y a pas un risque qu'on devienne des dieux?
Il y a fait, Mehout. Très forte importance ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'il y a un risque qu'on devienne des dieux? Oui. Qu'on se prenne en tout cas pour des dieux. Et c'est la raison pour laquelle Moshe, lorsqu'il meurt, qu'est-ce que Dieu dit? Je ne veux pas que vous alliez prier Moshe Rabbeinu comme si c'était l'éternel. Dieu est toujours infini, Moshe n'est qu'un homme. D'accord? Chas v'shalom, chez la chrétienté, on est tombé dans cette erreur. Donc il n'y a aucun risque pour qu'on se prenne pour Dieu. Mais nous sommes la révélation de Dieu sur terre. Exactement.
Donc est-ce qu'il n'y a pas un sens aussi qu'on devienne des dieux à une vie?
Non, on ne devient pas des dieux, mais on devient un autre tour créateur. Tu es d'accord? On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est marqué qu'à la fin des temps, chaque tzaddik pourra créer des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut en discuter. Mais Dieu nous donne en réalité une place essentielle. Comment s'appelle la partie de la maman qui contient le bébé en hébreu? Pas Beten, Rechem. 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 Si vous inversez Rechem, ça vous donne Machar. C'est-à-dire que dans le ventre de la maman, dans le Rechem, il y a le lendemain. C'est-à-dire, il y a celui qui viendra demain. Donc Dieu, notre peuple, c'est son devenir. C'est le devenir de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire son devenir? Mais tout simplement sa manifestation sur terre, son dévoilement sur terre. Nous sommes responsables de le raconter, de le révéler, de faire en sorte que le monde vive selon la morale de Dieu, la parole de Dieu, l'équité, la droiture, la justice. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, c'est selon les critères de la Torah, donc selon les critères de Dieu. Si vous vivez fidèle à cela, eh bien vous jouez votre rôle à merveille. Voilà ce pourquoi nous sommes là. Je résume tout ce que je viens de dire. La première teshuva du monde, c'est donc la teshuva de qui? De Dieu lui-même. Ça fait peur, hein? Mais en réalité, ça ne fait pas peur du tout. C'est tout simplement traduire la notion de teshuva différemment de ce que vous avez eu l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Donc teshuva, c'est le retour de Dieu. Donc toi, maintenant, quand tu fais teshuva en tant qu'homme individuel, qu'est-ce que tu fais? Tu? Non, tu ne retournes pas à Dieu. Tu permets à Dieu de revenir à travers toi. Tu as compris? C'est-à-dire, tu t'intègres dans le mouvement de circulation qui existe déjà. Je rentre dans le jeu. Il y a un grand fleuve qui coule. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets dans une barque à l'intérieur de ce fleuve et je rame. C'est-à-dire, j'accélère le mouvement dans le fleuve qui existe déjà. Donc le fleuve de la teshuva existe déjà. Et moi, en faisant teshuva individuellement parlant, je m'intègre dans ce grand fleuve. Et je fais dévoiler Dieu dans ce monde plus encore. Est-ce que c'est clair dans toutes les têtes, tout ce que je viens de dire? Très bonne question. Pourquoi Dieu a besoin de tout ça? Très bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est sa volonté, on n'arrive pas à comprendre, on ne comprend pas pourquoi Dieu a besoin. Apparemment, il n'a pas besoin de ça. Il aurait pu créer un monde où son nom est déjà révélé. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait fait d'une manière robotisée, c'est-à-dire on n'aurait été que des pions. Là, il nous laisse un choix, il nous laisse une participation. Donc ça, c'est une réponse qui est donnée dans les livres secrets de la Torah, ta question. Donc je ne veux pas la traiter maintenant. Tu as raison, c'est une très très bonne question. Et il faut se la poser aussi. Pourquoi Dieu a besoin de tout ça? Be'ezrat Hashem, on y arrivera par un autre biais. Est-ce que c'est clair? Quel?
Comment ça se fait que ce n'est pas la majorité des gens qui étudient la Torah qui sont revenus dans ce feu en Israël?
Alors, ça aussi c'est une très bonne question. Comment se fait-il que c'est pas la majorité des gens qui étudient la Torah qui sont rentrés dans ce fleuve, c'est-à-dire qui viennent en fait, c'est ce que tu veux dire d'après ta question, habiter sur cette terre. Tout simplement parce qu'il y a encore certaines différences de compréhension de notre rôle. Certains d'entre nous pensent qu'ils peuvent faire ce travail en dehors encore de la terre d'Israël, et d'autres qui sont convaincus, selon la Torah aussi, que le but est de faire ce travail à partir de cette terre. Moi, je fais partie des gens qui pensent comme la deuxième solution, qu'on ne peut pas agir réellement selon un peuple si on est en dehors de notre terre. Donc, Be'ezrat Hashem, le sujet reste ouvert, mais Be'ezrat Hashem, vous allez comprendre selon des références, je n'invente pas quelque chose, nous avons, Baruch Hashem, des montagnes de références pour prouver ce que nous sommes en train de dire. Et donc, il y a... Non, pas autant. Très, très peu de références. C'est-à-dire parce que la Torah tout entière ne parle que du retour des enfants d'Israël sur la terre. Et je vais tout de suite vous donner un verset récapitulatif de tout ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de lire un livre qui s'appelle Dvarim. Eh bien, dans le livre de Dvarim, nous avons un chapitre, le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, le texte nous dit clairement, « Vezota mitzvah, voilà la mitzvah, générale, hein, il parle de la Torah, « Hachukim, toutes les préceptes, « Ve'amishpatim, toutes les lois, « Asher tziva Hashem Elohechem lelamed etrem » que Dieu l'Éternel vous a donné pour vous enseigner. Et quelle est la suite du verset? La asot ba'aretz, pour que vous puissiez les faire sur la terre. Asher atem ovrim shama l'erisha, que vous devez aller conquérir. Autrement dit, toute la Torah, toutes les mitzvot, tout ce que je vous ai donné, ce n'est que pour arriver sur cette terre. Une autre référence qui ressemble étrangement à celle-ci, au chapitre 12. Chapitre 12 nous dit « Ele, hachukim, voici les préceptes, ve'amishpatim, et les lois, asher tishmerun, que je vous ordonne d'observer, la asot, pour les faire, pour les appliquer, ba'aretz, sur la terre, asher natan adonai elohe avotecha, lecha lerishta, kol hayamim, asher atem chayim al ha'adama. » Toutes les lois, les préceptes, la Torah, toutes les mitzvot, je vous les ai données pour les appliquer sur la terre que Dieu a donnée à vos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, la terre d'Israël. Et combien de temps ça va durer? Kol hayamim, pendant toutes les générations que vous êtes vivants. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui est éternelle, qui ne s'arrête pas. C'est vrai? Ken?
Mais si devant tous les cadres du peuple juif, dans l'Israël, ce n'est pas quelque chose pour récupérer les juifs qui sont un peu perdus, quoi.
Tu te contredis toi-même. Si tous les gens viennent ici... Ah, les cadres. D'accord, d'accord. Alors, il y a un problème. Il faut justement faire en sorte que je puisse envoyer peut-être des messagers pour aller chercher ces gens-là. Mais le but est toujours le même.
Quel? Comment le message de Dieu pourrait être révélé dans tout le monde si les juifs sont dans un coin de la planète?
Écoute, aujourd'hui, je donne un cours au Machon Meir. Vous êtes à peu près 25, 26. D'accord? Mais sur Internet, il passe à 10 000 en 2 heures. Donc tout le monde reçoit le message.
Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, les juifs, enfin, demain dans le monde, ils connaissent les juifs parce qu'ils voyaient dans la rue. Si demain, il y a tous les juifs dans un seul pays, c'est-à-dire au bout d'un mois, ils sont en train...
C'est ce que je suis en train de te dire. On va diffuser cette Torah à partir de notre établissement sur notre terre. On va être comme un rayonnement pour le monde, à partir d'ici. C'est-à-dire, tu vas pouvoir inventer des choses, tu vas pouvoir... inventer des médicaments pour des maladies, tu vas inventer un Waze pour que les gens se dirigent dans le monde entier. D'où ça sort? De ce petit pays. Tu comprends? Et justement, c'est ça que la Torah nous dit. C'est ce que la Torah nous dit. C'est pas moi qui le dis. La Torah me dit, je vous ai créé pour que vous fassiez ça à partir de cet endroit. C'est là où vous aurez cette bénédiction. C'est là où vous allez commencer à être connu dans le monde pour ce que vous êtes. C'est-à-dire pour révéler mon nom. Donc ça va passer partout. Par la science, par la physique, par la médecine, partout. Bien entendu, par la Torah, par l'éthique, par la moralité que nous devons générer au monde. Okay.
Mais d'après ce qui me semble, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut au final, quand il y aura la Géoula, etc., okay. Au moins ça, à ce moment-là, tout le monde sera sur la terre d'Israël, il faudra faire
une... D'accord, tout le monde est d'accord.
La marguerite, c'est juste sur le moment.
D'accord, non, on est d'accord, on est entièrement d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs écoles, moi je fais partie de cette école.
Qu'il faut dire maintenant.
Qu'il faut venir maintenant. Hier. Plutôt qu'aujourd'hui. C'est ça ? Donc vous êtes là-bas, vous cherchez. Ken ? Non, non, non. Ça, c'est au niveau de la compréhension des choses. Non, c'est pas que Paris va devenir faisant partie d'Eretz Israël. C'est que la notion d'Eretz Israël va se diffuser jusque là-bas. Tu comprends ? C'est ça, c'est dans ce sens-là. Eh bien, ça répond à sa question. C'est-à-dire quand le Mashiach sera là, quand tout se révélera, on n'aura pas besoin de bouger. La lumière va émaner. C'est comme un roi. Est-ce qu'un roi a besoin d'aller dans tous les pays pour se faire connaître ? Non. Ce sont les pays qui envoient des messagers pour venir. Voici le roi d'Éthiopie avec son épouse. Il rentre, il voit le roi Salomon. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Un roi est dans son royaume et c'est là où il règne. À Kadosh Baruch Hu, son royaume, c'est la terre d'Israël. Ki hi hamakom asher iviti. Car c'est l'endroit, dit Dieu lui-même, que j'ai voulu. Est-ce que Dieu est petit ailleurs ? Oui ou non ? Eh bien, vous ne savez pas ce que vous lisez le vendredi soir dans vos mizmorim de Shabbat. Parce que dans les mizmorim de Shabbat du vendredi soir, s'il y a un sidour ici, je peux vous le lire. Il y a un sidour ? Donne-moi un sidour. Regarde ce qu'il dit le sidour dans les mizmorim du vendredi soir. Donc Shabbat, vous allez à la synagogue et vous commencez selon les rites. Il y a un moment donné, qu'est-ce que vous dites? Adonai Betzion. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire Adonai Betzion Gadol? Dieu est grand où? En Eretz Israël. Sous-entendu, si tu le laisses ailleurs, il est petit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est petit? Tu ne le révèles pas comme il faut. Tu veux qu'il se révèle dans sa grandeur? Betzion. Veram hu al kol Elohim. Et c'est là où il devient dans son importance la plus grande. Et je peux vous donner des tonnes et des tonnes. Seulement, ce n'est pas le sujet de notre cours, bien que ce soit l'essence même de la Teshuvah. Ça veut dire que je peux considérer que vous avez déjà fait tshuva, en tout cas une grosse partie de la tshuva, en venant ici. Il y avait une question derrière toi, juste avant. Nachon, c'est péjoratif, on parle toujours de sa manifestation, pas de lui. Nachon, ce n'est pas péjoratif parce qu'on ne parle pas de lui, on parle de son dévoilement. Ça veut dire tu peux le révéler en petit ou tu peux lui révéler en grand. C'est tout. Lui, il reste le même, toujours, ne t'inquiète pas. Quel ?
Sous le schéma de la tshuva, vous avez fait au départ, vous avez dit, il y a eu une naissance, il a créé le monde, après il s'en est écarté, donc je simsume un peu, et après...
Bah, il s'en est écarté. Au moment où le monde sort de lui, entre guillemets, c'est comme s'il y avait une rétraction, en réalité, du monde. Donc il se cache, en fait.
Il se cache. Et nous, donc, on est nourri par le flux qui nous laisse quand même passer pour qu'on puisse grandir.
Pour le faire grandir. Exactement.
Et donc, quand on sera grand, en fait, on reviendra à l'état initial.
Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire qu'on devient, en fait, transparent. Canal transparent pour l'accès de Dieu à travers nous.
Alors, on est plus le corps.
Bien fait. Donc, nous sommes le canal par lequel Dieu revient sur terre. C'est un rôle important. Quel est le chemin après ? Bezrat Hashem, tu viendras aux d'autres cours après. On révélera aussi le reste. Selon le Ramchal, il y a un 7e millénaire, un 8e millénaire, un 9e millénaire et un 10e millénaire. On n'est que dans le 6e, tu as le temps. Donc il y a encore du boulot. Ne vous inquiétez pas. Les gens pensent que le Mashiach va venir, on va être à la retraite, c'est fini. Non. Le travail véritable commence à se placer. Nous sommes aujourd'hui dans la préhistoire, comprenez bien. L'histoire réelle commence au moment de la Géoula. Vous comprenez ça? La Géoula, c'est le début de l'histoire réelle. Tout ça, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une préparation à ça. Donc il faut accélérer le processus, c'est tout. Et Baruch HaShem, vous êtes là pour aider à ce processus. Mais il faut le faire avec amour, à faire prise de conscience de ce que vous êtes venu faire. Pas seulement vous avez fait un déplacement 4 heures de vol sur un Eretz. C'est pas ça. Je suis venu faire le travail au sein de ma nation. C'est autre chose. Ça vous grandit vous-même et ça grandit ce que vous devez faire. Tout devient immense. Tout prend une autre proportion. On peut revenir au texte? On y va. Beotamida. Sheha'em hayoledet. De la même manière que la maman qui accouche, Shava el hatinok, revient vers le bébé, Hanolad, qui vient de naître, Kedele amshich alav chaim, pour lui injecter de la vie, car, de la même manière, Shav bore ha'olam, revient le créateur du monde, El Briato, vers sa création, ou mamshich la chaim, et il lui fait injecter de la vie. Donc la première injection, le premier rapport entre Dieu et nous, c'est quoi? De quelle nature il est, ce lien? Un retour pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait avec ce retour? Il a fait. Il nous fait vivre. C'est tout. Donc le premier rapport que vous avez avec Dieu, c'est quoi? La vie. Donc vous vivez de son être. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que vous vivez de son être? Sans lui, il n'y a pas de vie. D'accord? Tu n'es pas, tu ne peux pas être sans qu'il soit. Donc comment il s'appelle? La racine de l'être. L apostrophe E T R E. D'ailleurs en hébreu on l'appelle Shem Havaya, le nom de l'existence, le nom de l'être. Le tétragramme que vous voyez, Yud, Ke, Vav, Ke, les quatre lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une traduction à ce nom-là? En hébreu, oui. C'est le nom de l'être. C'est-à-dire L apostrophe, être. Donc, quand cet être-là te traverse, qu'est-ce que tu fais? Tu es. La preuve que Dieu t'a traversé, c'est que tu es là. Tu es vivant. Donc, tu vis, tu marches, tu parles, tu manges, tu chantes, tu ris, tu danses. Grâce à cet être qui te traverse. C'est clair ça ou pas? Après, ce que tu fais pas, c'est autre chose. Mais déjà, tu es vivant de son être. Donc tu réalises son être à travers ta vie. Le fait même que tu vives prouve son existence. Ken?
Ceux qui vivent avec des difficultés, c'est-à-dire que Dieu, il a...
Ça veut dire que c'est pas Dieu qui a des difficultés, c'est que le canal a, dans certains endroits, des problèmes pour le passage de la lumière. Donc il faut nettoyer ce canal de tous ces problèmes, de toutes ces obstructions, de tous ces... Et la lumière coule normalement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un homme malade? Si, par exemple, il a mal à la main, ça veut dire quoi? Qu'il y a une mauvaise circulation de quoi? De Dieu, dans cet endroit. Alors, bien entendu, au niveau physiologique, tu vas dire c'est une mauvaise circulation du sang et tout ça. Mais peu importe. Qui est à l'intérieur de tout ça? L'être suprême. Donc, guérir de cette maladie, c'est revenir à son véritable travail. Donc, tu as le droit d'être malade ou pas?
Non.
Tu tombes malade, mais tu n'as pas le droit de rester. Il faut vite que tu cherches à guérir. D'accord? Bien fait. Alors, ça aussi, ça va rentrer dans d'autres réincarnations et d'autres choses qu'on ne parle pas maintenant. Donc, la mitzvah, c'est d'être sain d'esprit et de corps. Si tu es triste, par exemple, toute la journée, tu es triste. La majorité du temps, tu es triste. D'une échelle à 1 jusqu'à 10, combien vous êtes heureux? Dites-moi ceux qui sont 10. Levez la main. 9. Pas mal. 8. Pas mal. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Donc le plus bas, c'est 4. 5. Ça veut dire que vous avez en fait un manque de 5 pour réaliser véritablement Dieu. C'est pas normal que tu restes dans cette tristesse. Parce que si tu es triste, tu ne peux pas travailler réellement. C'est de. T'inquiète pas, tu n'en as que 2, toi, à compléter. D'après ce que tu m'as dit. D'accord. Un tzaddik gamour, un tzaddik complet, il est à 10. Sinon, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'ailleurs ? Prophétiser. Vous savez qu'un prophète ne peut pas prophétiser s'il n'est pas dans une simcha totale. Donc pour devenir prophète, ce que nous sommes par nature, nous devons être dans une joie intense. Il a fait. Alors Irmiaou dit une prophétie, mais ce n'est pas lui qui est triste, c'est la parole de Dieu qui passe par lui. Lui est obligé d'être dans une simcha pendant qu'il parle. Sinon, il ne peut pas prophétiser. Tu as compris la différence ? C'est pas lui qui parle, c'est pas Jérémie, on appelle les Jérémiades. Naron ? Parce qu'il pleure tout le temps. Mais c'est pas lui, c'est pas le bonhomme. Lui n'est qu'un canal. Sinon, c'est pas un prophète, c'est un homme qui est triste, qui vient nous balancer des trucs tristes dans la gueule. Excusez-moi l'expression, mais c'est pas ça un prophète. C'est Dieu qui parle à travers lui. Donc lui est heureux, mais il dit des choses qui sont un petit peu difficiles à entendre. Grande différence, attention. Il a fait. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous rend triste. Il vous enlève 5 degrés sur 10. Et il se nourrit de ces 5 degrés. Comme ça, au moins, tu ne fais pas ton travail. Et lui, il danse pendant ce temps. C'est pour ça que c'est toujours la boîte de nuit en enfer. Parce qu'en réalité, ils se nourrissent là-bas de quoi ? Des manques de simcha que nous avons nous ici. C'est grave. Hein ? Voilà une teshuvah avec laquelle il faut arriver avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, vous devez arriver à 8, 10 de Simcha. Première teshuvah avant de parler d'autre chose. Avant de parler des tefillines, avant de parler de ta tefillah, avant de parler de quoi que ce soit. T'es pas heureux, donc il y a quelque chose qui va pas.
On peut arriver à 10 sans le temple.
La Vadaï. Il y a un temple intérieur. Alors extérieurement parlant, au niveau du Klal, tu n'auras pas encore l'aboutissement. Mais toi, au niveau intérieur, tu es au maximum de tes possibilités. Mon cher.
C'est la vie qui nous
Il y a fait, c'est toujours la vie.
Non, c'est... t'as vu des choses qui sont pas contrôlables.
Mais c'est toujours la vie. Tout est contrôlable par rapport à comment toi, tu reçois la chose. Par exemple, je donne un film maintenant. Vous êtes ici 26 personnes, Bli Aïnara. Vous allez voir les 26 le même film. Est-ce que ce film vous aura pénétré de la même manière ? Non. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes un écran vous-même et l'accès du film à votre identité va arriver d'une manière différente. Si tu es noir, le film sera noir. Si tu es vert, le film sera vert. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, ça change. Tu n'es pas avec la même sensation toutes les heures de la journée. Il y a des moments où tu es un petit peu mieux, un petit peu moins bien. D'ailleurs, si vous voulez voir si un cours est bon, à la fin du cours, vous devez sortir avec au moins un degré de mieux que ce que vous étiez tout à l'heure. Vous avez encore une minute. Ou quelques minutes. J'espère que j'aurai réussi mon coup. Sinon, c'est pas bien. Et d'ailleurs, je dis à tous mes élèves, ici vous êtes peut-être obligés de venir au cours, mais si le cours ne vous parle pas, il ne faut pas revenir. Il faut que vous soyez transformé à la fin du cours. Que vous sortiez du cours avec un élan, avec une nouvelle compréhension, avec une nouvelle vision des choses. Je ne me vexe pas. C'est juste que par rapport à vous, le canal que je représente, peut-être ne correspond pas. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir un autre cours. Mais ceux qui restent doivent être dans une situation où ça coule. Quand je sors d'un cours de mon maître, j'ai mis 50 ans pour le trouver. Mais quand je sors d'un cours, je peux écrire un livre. Il m'a transformé la vie. À chaque cours, il y a une transformation totale de mon être. Je sors heureux, nouveau, frais, renouvelé. rempli de vie. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut sortir d'un cours de Torah. Rempli de vie et d'optimisme pour pouvoir corriger certaines choses que j'ai cru avoir compris, que j'ai cru comprendre, mais qui ne sont pas réellement ce que j'ai pensé. C'est pas grave. On est souple, on change, on avance, on évolue. On fait tous un seul degré, c'est de révéler Dieu sur terre. Et après, chacun choisit son canal. Quel ?
Et souvent, le mouvement vient de l'extérieur, ça influence le caractère. Donc là, vous parlez de la teshuva, ça vient de l'extérieur, ça vient vers nous. Mais pour pouvoir être à 100%, il faudrait que ça vienne de l'intérieur.
En réalité, c'est faux. Tout vient de l'intérieur déjà. Parce que ta neshama, c'est quoi ? C'est le divin qui est en toi. Donc en fait, tout ce que je vous ai dit maintenant, et je le résume avec un mot, permettez à votre neshama, qui elle toujours est saine, elle est toujours liée à l'infini, permettez-lui de se révéler dans votre corps. Laissez-la sortir, ne l'étouffez pas. Voilà la teshuva. La véritable teshuva, c'est laisser la neshama que vous avez à l'intérieur. Vous avez tous une neshama. Et ce matin, vous avez dit, Elohai neshama shenata tabi tehora. La neshama que tu as mis en lui, elle est pure, elle est 100%, il n'y a rien à faire. Vous l'avez dit ce matin, d'accord ? Vous ne mentez pas. C'est vrai. Donc ça veut dire que c'est la partie divine dont j'ai parlé tout à l'heure qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? La laisser sortir. Laissez-la s'exprimer. Laissez votre neshama sortir dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de voir, dans votre façon d'entendre, dans votre façon de sentir. Tout ça, c'est la neshama qui fait. C'est rien d'autre. Une bouche n'a jamais parlé. Tu poses une bouche sur la table, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est la neshama qui utilise cet instrument pour se révéler. D'ailleurs, maintenant, vous êtes en train d'entendre une neshama parler. Ça vous fait peur ? Alors, je prends une voix normale, mais si j'avais fait « ouh », c'est la même chose, ce sont des neshamot. Quand vous me posez une question, j'entends une neshama parler à travers votre corps. Donc laissez-la s'exprimer, laissez-la s'épanouir, laissez-la se révéler. Ça, c'est le véritable mouvement de la tshuva. Toda rabba.